Vous écoutez RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin.
Le journal, c'est avec vous, Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et à la une donc cette tragédie inimaginable en Italie.
Les secours ont œuvré toute la nuit pour tenter de trouver les survivants sous les débris du viaduc qui s'est soudainement effondré hier matin à Gênes. Le bilan est encore très provisoire ce matin. Le chef du gouvernement parle de 25 morts et de 16 blessés. Et vous l'entendrez, les Italiens sont partagés entre colère et émotion.
Et en France, une telle tragédie pourrait-elle arriver? Comment est entretenu notre réseau? Nous prendrons 3 minutes pour comprendre avec le président du syndicat des entrepreneurs spécialistes de travaux et renforcement de structures, Christian Tridon. Rendez-vous à 7h20.
Une solution pour l'Aquarius. Le navire humanitaire va pouvoir accoster à Malte et la France accueillera 60 des 141 migrants à bord. C'est la période pour acheter dans l'immobilier. Les taux de crédit sont historiquement bas cet été. Par contre, pour acheter le maillot des Bleus avec les 2 étoiles, 2 champions du monde, il va falloir être patient. Cela fait un mois exactement que la France a été sacrée.
Un bon bol d'air à la fin de ce journal. On ira visiter la baie du Mont-Saint-Michel en compagnie de Frédéric Veil. Ce sera un été en France.
RTL Matin.
C'est la course contre la montre ce matin en Italie.
Oui, le pays est bouleversé depuis l'effondrement d'un viaduc autoroutier très fréquenté hier matin à Gênes, une ville du nord près de la Méditerranée. Le pont s'est soudainement effondré sur 200 mètres, emportant les voitures et les camions qui se trouvaient dessus. Et sous les yeux, impuissants, des habitants de la ville qui voyaient ce pont au quotidien. Voilà, vous entendez cet habitant incrédule qui a filmé la catastrophe. On voit sur les images un pylône en train de s'effondrer. Et ce matin, le bilan est encore très provisoire. Une trentaine de morts. Brice Dugénie, vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Gênes. Bonjour.
Bonjour.
Ce bilan, il risque de s'alourdir aujourd'hui.
Oui, parce que dans le va-et-vient des véhicules, des grues, des camions, les sauveteurs ont travaillé toute la nuit et ils s'affairent encore autour de ce qui est désormais un amas de gravats et de véhicules, alors qu'hier c'était encore un pilier de 90 mètres de béton. Alors au pied de ce pont, au moment où on parle, à l'instant sous mes yeux passe un camion remorque d'ailleurs avec un camion totalement écrasé à son bord. Au pied du pont, on voit des gyrophares, des véhicules de secours, d'immenses camions grues qui sont là pour extraire des victimes, des véhicules et ces énormes blocs de béton enchevêtrés. Ils sont encore éclairés par de puissants projecteurs alors que le jour se lève sur Gênes. On entend au loin en ce moment un énorme marteau-piqueur qui tente de casser ces morceaux de route désormais plantés 45 mètres plus bas et autour desquels les sauveteurs il y a quelques heures encore ont trouvé des corps sans vie. Pierre Borghini est un pompier français. Il est venu de Nice pour aider les Italiens et il a assisté à ce travail toute la nuit.
Beaucoup de travail effectué par les machines, donc les pelleteuses, marteaux-piqueurs. On a assisté à l'évacuation d'une famille décédée dans un véhicule qui avait chuté.
Est-ce que ça veut dire qu'au moment où on parle, les pompiers, les sauveteurs italiens pensent qu'il n'y a plus de chance de retrouver de survivants?
Ça paraît quand même assez peu crédible là que, avec les traumatismes qu'il y a eu pour ces véhicules qui ont chuté de 45 mètres, et avec le temps qui est passé maintenant, ces véhicules qui étaient bloqués dans les décombres, ça, comme on disait, ça tiendrait plus du miracle qu'autre chose. Est-ce qu'on y croit toujours ou pas? Il y a toujours quelque part un petit espoir, mais c'est vrai que là, les chances sont très, très, très minces. Ouais.
45 mètres au-dessus de la tête des sauveteurs, en ce moment, le soleil se lève et fait apparaître camions et voitures qui sont arrêtés de justesse hier à quelques mètres du trou béant, qui était il y a 24 heures encore le pont le plus emprunté de la région.
Brice Dugénie, envoyé spécial de RTL à Gênes.
Les autorités italiennes parlent d'un désastre, inacceptable, mais il faut dire que ce pont était régulièrement pointé du doigt.
Le viaduc a été façonné dans les années 60 par l'architecte italien Riccardo Morandi. Cet ingénieur a construit d'autres édifices dans le pays, et celui de Gênes portait d'ailleurs son nom, un pont au-dessus de la ville pour aller jusqu'à la frontière française par l'autoroute. Mais il était surtout connu pour ses problèmes récurrents, comme l'explique le journaliste italien Paolo Levi, correspondant à Paris de l'agence de presse ANSA.
C'est un pont qui a 51 ans et tout de suite, depuis son inauguration, il avait été critiqué par d'autres ingénieurs qui avaient dit « Mais non, un pont de plus d'un kilomètre comme ça, suspendu, ne va pas tenir. » Apparemment, le coût de la maintenance a été beaucoup plus supérieur dans tout ce demi-siècle qui s'est écoulé à la construction même du pont. Donc c'était un pont qui avait constamment besoin d'être reconsolidé. Disons, pour parler à nos auditeurs, éleveurs français, j'exagère, mais c'est comme si le viaduc de Millau dans le sud de la France s'écroulait dans, en plein Marseille. Quoi. C'est un peu la même chose qui se passe à Gênes.
Voilà, le journaliste italien Paolo Levi, interrogé dans RTL Soir par Vincent Parisot. Cela pose la question de la qualité des infrastructures en Italie, mais aussi chez nous en France, où on compte 12 000 ponts, dont 4 000 en mauvais état, selon un récent rapport qui vient d'être remis au ministère des Transports. On parle dans 7% des cas de grosses fissures, voire de risques d'effondrement.
Eh bien justement, on en parlera avec notre invité à 7h20, Christian Tridon. Il est spécialiste des infrastructures. On lui demandera donc si une telle catastrophe pourrait arriver un jour en France.
RTL Matin, 7h05.
Une solution a donc été trouvée pour l'Aquarius.
Le navire humanitaire va finalement pouvoir accoster à Malte avec les 141 migrants qui se trouvent à bord. Ils seront ensuite répartis dans 5 pays de l'Union européenne. Des pays qui se sont mis d'accord et la France en accueillera une soixantaine, Béatrice Adjadj.
L'accord a été trouvé suite à une initiative franco-maltaise, tweet Emmanuel Macron. Malte accepte donc d'accueillir l'Aquarius, qui se trouvait à mi-chemin entre ses côtes et l'Italie. En contrepartie, les 141 migrants seront répartis entre 5 pays européens, France, Espagne, Luxembourg, Allemagne et Portugal, qui sont volontaires pour se partager leur accueil. Dès jeudi, la France enverra à Malte une équipe de l'OFPRA, cet organisme chargé d'examiner les demandes d'asile. Selon l'ONG SOS Méditerranée, la moitié des passagers de l'Aquarius sont des mineurs et les deux tiers viennent du Soudan et de l'Érythrée, deux pays où les persécutions en cours peuvent justifier l'obtention de ce droit d'asile. Depuis que le nouveau gouvernement italien, en juin dernier, a décidé de fermer ses ports aux bateaux des ONG, une demi-douzaine de pays européens se mobilisent donc pour trouver des solutions au cas par cas afin d'accueillir les migrants. Au total, la France en aura accepté 260 dans ces conditions depuis cet été.
Béatrice Adjadj, pour RTL, une solution est trouvée, mais cela n'empêche pas les critiques. Plusieurs ténors de la gauche, comme Anne Hidalgo, Martine Aubry ou Stéphane Le Foll, fustigent l'incurie de Paris et de Bruxelles dans la crise migratoire. Ils demandent la création d'une liste de ports à même d'accueillir les autres Aquarius. La police britannique a mené hier soir des perquisitions dans le centre de l'Angleterre pour tenter d'en savoir davantage sur l'homme de 29 ans qui a foncé dans la foule et fait 3 blessés hier matin devant le Parlement à Londres. Les autorités parlent là-bas d'un acte terroriste. Le bras de fer se durcit entre les États-Unis et la Turquie. Le président Erdogan annonce que son pays va boycotter tous les appareils électroniques américains comme les iPhones. La monnaie turque se stabilise, mais les marchés sont toujours préoccupés et la bourse de Paris a encore terminé dans le rouge hier soir.
Et c'est le moment d'investir dans l'immobilier.
Oui, les taux des crédits immobiliers sont historiquement bas en ce moment, alors que le coût de la vie s'est encore accéléré en juillet avec une hausse des prix à la consommation de 2,3% sur un an. Christophe Ponzio, c'est le moment de se lancer dans l'achat immobilier.
Effectivement, conditions extrêmement favorables pour acheter et emprunter, explique Maël Bernier du courtier meilleurtaux.com.
Emprunter aujourd'hui à 1,5% avec une inflation à 2, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez gagner de l'argent.
S'enrichir en s'endettant grâce à ces taux de crédit immobilier qui restent historiquement bas et grâce aux banques qui n'ont toujours pas rempli leurs objectifs.
C'est ce qui explique aussi cette grande braderie de l'été avec des ristournes. Hein. Il n'est pas complètement aberrant de voir passer des dossiers autour de 1,20 sur 20 ans sans apport. Donc ça, c'est un signal très fort de leur part, comme quoi elles recherchent toujours des nouveaux clients, même pendant cette période estivale.
Malgré ces taux de l'été attractifs, acheter reste compliqué dans les grandes villes comme Bordeaux, Paris et Lyon à cause des prix de l'immobilier. Mais il y a des bons plans ailleurs, rappelle Maël Bernier.
Pour quelqu'un qui pourrait rembourser 1000 euros par mois, vous allez acheter 110 mètres carrés au Havre. Vous n'aurez que 23 mètres carrés à Paris, avec cette même somme. Vous aurez 74 mètres carrés à Toulouse, 67 mètres carrés à Lille, ça veut dire quand même un petit trois pièces. Donc typiquement, Lille, c'est une ville à une heure de Paris où on se loge encore à des tarifs totalement abordables et on profite également des conditions de taux très favorables.
Une situation exceptionnelle qui, selon la spécialiste, perdurera au moins jusqu'à cet automne.
C'était Christophe Ponzio pour RTL. La rentrée approche et 3 écoles françaises apparaissent dans le top 100 des universités selon le dernier classement de Shanghai qui note les établissements du monde entier et qui fait foi en la matière. Les écoles américaines sont toujours aux premières places, notamment Harvard qui est en tête pour la 16e année d'affilée. L'université de la Sorbonne arrive à la 36e place. 25 000 personnes sont attendues aujourd'hui à Lourdes. Il y aura foule pour le traditionnel pèlerinage du 15 août afin de célébrer la montée au ciel de la Vierge Marie.
Et nous serons à 8h moins quart avec Monseigneur Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen.
RTL Matin, 7h09.
On a crié, on a pleuré, on a chanté. Ça fait déjà un mois, jour pour jour, que la France est championne du monde de football.
Et pourtant, les maillots de champion avec les deux étoiles ne sont toujours pas en vente dans les magasins, Philippe Sansfourche.
Et il va falloir encore être très patient, puisque quelques milliers seulement de pièces sont attendues demain dans les points de vente de l'équipementier Nike, ainsi que dans les grandes enseignes de distribution sportive. Autant dire une goutte d'eau par rapport à la demande. Et les prochains arrivages ne sont pas prévus avant le 15 octobre, selon nos informations, concernant en tout cas les grandes enseignes de distribution. Une pénurie qui, paradoxalement, est devenue une stratégie commerciale chez l'équipementier américain, qui organise régulièrement la rareté et entretient le mystère sur ses délais de livraison. Mais de toute façon, les marges de manœuvre restent étroites, puisque les programmes de production en usine sont parfois calés jusqu'à 6 mois en avance. Même champion du monde, les Bleus du foot doivent composer avec des franchises concurrentes et un marché mondial, sans compter les délais d'acheminement, plus d'un mois par bateau depuis les usines du sud-est asiatique.
Voilà les explications de Philippe Sansfourche pour RTL. Tous les champions du monde tricolores sont de retour à l'entraînement depuis cette grande finale remportée 4-2 face à la Croatie. Certains ont déjà rejoué et un seul a changé de club cet été. Le milieu Steven Nzonzi vient de quitter Séville pour rejoindre la Roma dans une opération à environ 30 millions d'euros.
Nous sommes mercredi, jour des sorties cinéma, avec un événement aujourd'hui.
Isabelle Adjani fait son retour à l'écran dans Le Monde est à toi, un film de Romain Gavras, dans lequel elle interprète une mère bling-bling face à son fils, un petit dealer qui veut tout arrêter. Isabelle Adjani se fait rare au cinéma, mais Stéphane Boutsock avait eu l'occasion de l'interroger sur ce film lors du Festival de Cannes.
Ce qui m'a intéressée, c'est que je ne savais absolument pas ce que je pouvais lui apporter à ce personnage. Et je sentais que seul Romain Gavras avait la maîtrise de sa vision. Je lui ai dit d'ailleurs au départ, mais pourquoi est-ce que vous voulez que moi je fasse ça? C'est pas pour moi, je vois pas d'évidence. Il m'a dit, si, il y a une évidence qui vous échappe. Et je me suis dit, mais après tout, plongeons dans l'inconnu, peut-être que ça va promettre quelque chose de surprenant et qui va me plaire, qui va m'apporter du bonheur en tant qu'interprète, et c'était le cas. Et tout le monde a œuvré à fabriquer comme ça cette femme qui s'appelle Dani dans le film.
Une sorte de diva. Hein.
Une espèce de diva un peu orientale, comme ça, par effluve. On se dit, mais d'où elle vient celle-là?
C'est quoi ton projet?
Je veux développer la franchise Mister Freeze au Maghreb.
On sait pas ce que tu veux dans la vie. Un jour tu veux être boulanger, un autre pompier.
Mais putain, tu rends fou, j'avais 8 ans.
Voilà le film Le Monde est à toi avec Isabelle Adjani qui répondait à Stéphane Boutsock pour RTL.
La voix rare d'Isabelle Adjani. Merci beaucoup Quentin Vinet, on vous retrouve à 8h.
À tout à l'heure.